La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mardi, la compagnie des auteurs fait un arrêt sur le plus sombre des membres de la Beat Generation, William Burroughs. La plupart des gens ne regardent pas ce qui se passe autour d'eux, avait coutume de dire William Burroughs, et il poursuivait « Voilà mon principal message aux écrivains, pour l'amour de Dieu, ouvrez les yeux ». Burroughs, lui, avait sans doute les yeux ouverts, mais était-ce sur le monde tel qu'il se présente à nous ou sur un monde augmenté par la prise de diverses substances, morphine, benzédrine, LSD ou autres, qui lui causaient de terribles descentes? Toujours est-il qu'à la fin des fins, il aurait pu dire, tout comme son ami Brian Gysing, que « Junk is no good, baby ».«
Junk is no good, baby. Is no good, baby junk. » Baby, no good junk is. Junk is good, baby, no! Is good, baby, no junk. No junk is good, baby. Good, baby, no junk is. Baby, no junk is good.
Voilà, j'espère que c'est compris. Gérard-Georges Lemaire est dans ce studio. Il est l'un des plus fins connaisseurs de la Beat Generation en France. Il a publié Le Colloque de Tanger, William Burroughs, Brian Gysing. C'était même son premier livre chez Christian Bourgois en 1976. Il est aussi l'auteur d'une anthologie de la Beat Generation parue chez Al Dente en 2004. Anthologie dans laquelle figure Burroughs, même s'il ne s'est jamais reconnu sous cette étiquette. Et puis, plus récemment, il a préfacé Le Festin Nu, grand roman de Burroughs dans la collection Folio. Bienvenue à tous dans la compagnie des auteurs. De William Burroughs, un peu robotisé en ouverture de cette émission qui lui est consacrée. Bonjour Gérard-Georges Lemaire.
Bonjour.
C'est une voix dont on peut dire qu'elle vous hante, et cela depuis bien longtemps.
Oui, depuis très longtemps. C'est une aventure qui a commencé pour moi quasiment la dernière année du lycée. J'ai découvert le Festin Nu. Et j'étais absolument abasourdi par ce texte absolument incroyable et par cette magnifique traduction d'Eric Kahn. Il faut dire que la traduction a joué un rôle considérable. Et par la suite, le hasard a voulu que j'aille travailler chez Christian Bourgois éditeur pendant quelques années, là, au début de mes études supérieures. Et Christian Bourgois me faisait lire, j'étais un petit lecteur en somme, je lisais des manuscrits en français. Et un beau jour, il me demande, vous lisez l'anglais ? Ouais, je dis oui, un peu, pas trop mal, mais enfin j'arrive. Ah bah tenez, lisez-moi ça. Et c'était un livre de Burroughs, donc c'était la première fois que je lisais un livre de Burroughs en anglais. Et ce livre, d'ailleurs, a été publié par la suite. Donc, ce rapport à Burroughs est venu de ce livre que j'avais trouvé en chinant chez un antiquaire de livres. Ensuite, ce rapport de lecture que j'ai dû faire pour Bourgois. Et ensuite, j'ai eu une idée. J'ai fait un rêve.
Ah, et comme Burroughs, j'ai rêvé alors, c'est le rêve qui vous inspire. Hein? Comme Burroughs, c'est le rêve qui vous inspire dans
tout
la vie.
Tout à fait. Alors là, et moi qui rêvais pourtant fort peu, enfin qui rêvais fort peu, qui me souvenais très peu de mes rêves, j'avais fait un rêve très fort dont je me souvenais parfaitement, et chacun disait un événement, je ne sais trop où, alors dans le rêve ça c'est très flou, avec William Burroughs et Brian Gastine, car entre-temps, j'avais changé de maison d'édition, je travaillais chez Flammarion, et on m'a demandé de faire une collection d'auteurs anglo-saxons, surtout, pas seulement, et j'ai commencé à publier Burroughs et Gastine.
Alors on va parler avec vous, Gérard-Georges Lemaire, de la biographie de Burroughs, qui est né le 5 février 1914 à Saint-Louis, dans le Missouri, dans une famille qui était une famille très protestante.
Oui, une famille non seulement très protestante, une famille aisée, parce qu'il était un parent de l'inventeur de la machine à calculer, d'ailleurs ce qu'il a sauvé pendant sa vie, parce qu'il recevait des petites mensualités de ses parents tous les mois.
Jusqu'à ses 45 ans, il recevait de l'argent de ses parents.
Mais n'empêche que ça n'était pas beaucoup de sous, mais enfin c'était assez de quoi vivre, acheter un peu de drogue, bon.
Il avait un minimum. Ses parents le savaient à quoi il destinait l'argent qui lui était envoyé.
Il était décidé surtout à payer de quoi vivre. C'était pas pour la drogue évidemment. Hein. Vous devez bien l'imaginer quand dans une famille, ses parents étaient antiquaires. C'était des gens donc de la bonne bourgeoisie de Saint-Louis et il n'imaginait certainement pas leur fiston. En train de se droguer. Mais bref, il a voyagé très tôt en Europe, juste avant la guerre.
Et alors, un peu comme Kerouac dont on parlait hier dans cette émission, il y a ce rapport à la religion qui est très important dans la famille Burroughs. Est-ce que c'est trop facile, selon vous, de faire directement un lien entre le puritanisme, les racines protestantes, le fait que Burroughs avait un grand-père maternel qui était pasteur, hein, ouais, qui vivait vraiment selon la Bible, et évidemment le junkie qu'il va devenir?
C'est une question très difficile que vous posez là, parce que oui, on peut faire un lien, mais je crois pas que ce soit un lien fondamental. Oui, c'est un wasp, Burroughs, et même physiquement, ça se voyait. Hein, il avait cette apparence d'un homme toujours très bien habillé, ouais, très classe.
Il pouvait ressembler à André Gide sur certaines photos.
Oui, un petit peu, plus grand, plus silencieux aussi, parce qu'il parlait très peu. Il était toujours très distant. Enfin, il semblait distant. En fait, je crois que c'est plutôt quelqu'un de très timide, mais c'est quelqu'un qui s'extériorisait assez peu. Sauf dans des cas très précis, mais pas quelqu'un qui avait une relation aux autres facile, et même très difficile.
Alors, toujours dans la famille de Burroughs, il y a un oncle, Ivy Lee, qui figure dans les livres de John Dos Passos sous le nom de Poison Ivy. Lui aussi, ouais, il a une histoire quand même.
Je ne connais pas l'histoire. Alors oui, je sais, parce que là, on a quelque chose qui fait que Burroughs, la famille de Burroughs avait eu une importance quand même dans l'histoire des États-Unis. Ne serait-ce que pour cette histoire de machine à calculer qui est l'ancêtre de l'ordinateur, hein, quand même, faut bien le dire. Et donc ça a été quelque chose de... Mais lui, ça a joué un grand rôle, cette histoire de machine à calculer, pas tellement pour des raisons familiales, mais dans la conception qu'il aura plus tard de l'écriture de ces textes, oui. Alors là, certainement, on peut faire plus un lien par ce biais-là que par le biais strictement familial ou par les origines sociales.
Pour dire un mot donc sur Poison Ivy, c'est quelqu'un qui a inventé les relations publiques aux États-Unis, puis qui n'était pas tellement encombré par les principes, puisque il a commencé par travailler pour les Rockefeller et après il a fait des relations publiques pour les nazis. Vous croyez que ça a eu une influence sur la manière dont Burroughs pouvait voir le monde ?
Non. Non, parce que Burroughs, lui, justement, on ne sait pas très bien. Je ne sais pas si vous avez lu une biographie américaine de Burroughs. On s'aperçoit qu'elles sont toujours lacunaires. Donc, on ne sait pas très bien. On ne sait même pas très bien ce qu'il a été fabriqué en Europe. Il semblerait qu'il ait fait des études à Vienne, je lui ai semblé. Il semblerait qu'il ait fait de psychanalyse, en tout cas, il le disait. Mais est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Il s'est retrouvé en Yougoslavie, pourquoi? On l'ignore. Il s'y est même marié. Pas oublier ce détail, ici est marié.
Un mariage blanc pour finalement aider une juive qui était exilée d'Autriche et pour qu'elle puisse vivre aux États-Unis.
Oui, mais en tout cas, oui, absolument, vous avez raison. Mais ça n'empêche que, vu le personnage et vu ses dispositions personnelles, ça c'est bizarre ce mariage. Enfin bref, il a fait ce mariage, qui était bien sûr un mariage blanc, comme vous le disiez, mais... Bref, on ne sait pas bien ce qu'il a fait en Europe. Il est revenu aux États-Unis et là, on va le retrouver à New York vivant dans un milieu de petites frappes et de malfrats.
Dont nous allons parler. Vous écoutez la compagnie des auteurs et nous parlons de Burroughs avec Gérard-Georges Lemaire. William Burroughs qui est né dans une famille typiquement américaine. L'Amérique, c'est important, c'est quelque chose quand
oui,
même.
Oui, l'Amérique
Burroughs.
Et surtout l'Amérique du Sud. D'abord, il avait un accent absolument invraisemblable. Moi, quand je l'ai rencontré, je ne comprenais rien de ce qu'il me disait. Il a fallu que j'habitue mon oreille progressivement à cet accent assez particulier.
C'est-à-dire, quel accent avait-il?
Ben, l'accent du Middle West. Et il l'a conservé, et après il en a joué. Il est devenu un excellent lecteur, qu'au début, il n'aurait jamais même imaginé lire ses textes en public. Il est devenu un lecteur professionnel, un vrai maître de théâtre. Ça, c'est absolument extraordinaire. La dernière partie de sa vie, il a fait beaucoup de lectures, et ça était merveilleux. Et donc, cet accent lui a servi, finalement. Mais par contre, dans les relations, là, c'était beaucoup moins facile, parce qu'il fallait vraiment être très attentif à ce qu'il disait pour le comprendre.
Alors, un de ses biographes, Graham Cavney, a dit que dans la figure de William Burroughs, l'Amérique retrouvait l'un de ses portraits les plus pervers en cette fin de siècle, il parle du 20e. Il a assimilé, dit-il, chaque fibre de sa culture et l'a représenté dans sa difformité. Il est tout aussi américain que la chaise électrique.
Oui, enfin c'est une image qui est pas entièrement fausse, mais qui est en même temps un peu inexacte. Il faut prendre la mesure des choses, parce que d'un côté, il y a ça c'est vrai, et d'un autre côté, il y a cet attrait qui était très fort chez lui pour la culture européenne, et lorsque le petit cercle de ce qui est devenu la Beat Generation s'est constitué à New York, c'était l'aîné, il était beaucoup plus âgé que Kerouac, que Ginsberg et puis Corso.
Une dizaine d'années de plus. Oui.
Et c'est lui qui était un peu leur professeur, et qui leur a expliqué la littérature, qui leur a fait découvrir Dostoïevski, qui leur a fait découvrir Kafka, qui leur a fait découvrir beaucoup de choses de la culture européenne, alors que Kerouac, par exemple, c'est un garçon qui, à l'époque, qui ne voyait que la littérature américaine et rien d'autre, et de s'intéresser à ça, et voulait suivre les pas des anciens, et faire une autre... D'ailleurs, le premier livre de Kerouac, c'est ça, c'est vraiment un livre américain, typique, dans la tradition, déjà bien établie.
Et cette américanité, quand même, chez Burroughs, on la retrouve quand il dit qu'il s'intéresse plus particulièrement aux faits, que c'est quelqu'un de pragmatique. Oui. Je voudrais vous faire écouter une archive... À ce sujet-là.
Well, I think I've gone into that at some length in the Electronic Revolution and in the prospectus that you will have.
J'ai exploré le rôle du mot assez largement dans la révolution électronique, dans le livre des respirations et un article qui s'appelle Adam and Eve's Dropping. J'ai parlé de la possibilité que le mot soit un virus,
in some ways destructive by nature.
Qui soit destructeur en soi.
The more concrete the use of words, the less destructive.
Plus les mots sont concrets, moins ils sont destructeurs.
The abstract words that cause the trouble.
C'est le mot abstrait qui produit, qui fait problème.
Such words as communism, fascism,
des mots comme communisme, fascisme,
they don't really mean anything.
Qui n'ont pas de signifié, qui ne veulent pas dire grand-chose. Il ne se réfère à rien. Quand il s'agit d'une table, il n'y a pas de problème. Bien sûr qu'il y a d'autres tables. Mais on peut se mettre d'accord sur la nature d'une table. Mais si je parle de communisme ou fascisme, les gens peuvent discuter à l'infini. Parce qu'ils discutent sur un mot. Mais si on discute de communisme, fascisme, matérialisme, libéralisme, vous avez autant de définitions que de gens qui parlent. Alors je suis pour la suppression pure et simple de tous ces mots du langage.
Il y a un refus de l'idéologie chez Burroughs, Gérard-Georges Lemaire, un refus des ismes.
Oui, je crois que surtout, c'est peut-être pas un refus, c'est surtout une indifférence assez grande, surtout qu'aux États-Unis, au fond, on était quand même loin de la scène tragique de l'Europe de cette période, parce qu'au fond, il est aux États-Unis pendant la guerre. Et ce qui était très important pour lui, c'est de jamais parler de choses justement abstraites, comme il le dit d'ailleurs dans ce texte, et de s'intéresser aux faits. Voilà, c'était un mot qui avait souvent dans sa bouche, « facts ». Voilà, les faits. Ça n'empêchait pas de penser, c'était même quelqu'un qui pensait des choses assez subtiles. Le problème, c'est que, étant donné ce qu'il était et ce qu'il faisait, il écrivait de temps en temps des essais, ce qu'on pourrait appeler des essais, et qui n'en étaient pas, parce qu'il se transformait petit à petit en fiction. Alors c'est comme les conférences qu'il avait données à New York pendant un an, qui ont été publiées dans une revue qui s'appelait Crow Daily à l'époque. Ça était drôle, parce que ça commençait par une conférence tout à fait classique, et où il exposait ses vues sur le monde, et ça se terminait par une histoire. Donc il finissait jamais, il n'allait jamais à la conclusion. Mais enfin, on le sait très bien, en particulier dans la révolution électronique, qui est certainement le livre clé pour ces questions-là, qu'il avait une vision du monde très précise, et il avait aussi des obsessions, des hantises. Il était obsédé par le contrôle, qu'on pouvait exercer sur les autres. Donc il pensait même que le langage était un système de contrôle.
Il y a toujours à l'horizon comme ça la science, oui. Il y a quelque chose effectivement de très...
Oui,
d'ailleurs, il terminera par des livres de science-fiction.
Il s'intéressait à la science, s'intéressait à la logique. Il a eu un petit ami qui a beaucoup compté de ce côté-là, qui est Yann Somerville. Yann Somerville, c'était un scientifique. C'est lui qui a travaillé avec Paul Gysin à la conception d'un Dream Machine et aussi qui a aidé à certains enregistrements de l'époque, quand ils étaient à Paris au Beat Hotel. Donc il y a eu, c'est vrai, chez lui, quelque chose toujours tourné de ce côté-là. Alors c'était un curieux mélange entre un homme extrêmement cultivé, et en particulier du point de vue littéraire, et puis cet intérêt pour des domaines qui peuvent paraître singuliers pour un écrivain, mais il avait cette hantise permanente. Et en plus, la drogue a joué un rôle dans cette affaire, parce que la drogue, c'est quelque chose qui a à voir avec le monde médical. Donc il était une sorte d'expert dans les questions-là. Il donnait des conseils, expliquait ce qu'il fallait faire, ne pas faire, etc.
Dans le festin nu, d'ailleurs, il donne un certain nombre de conseils sur les effets de telle ou telle drogue, de comment ça doit se prendre, etc. etc.
Et ça l'a emmené à même à faire une expédition en Colombie. Il est allé en Amazonie à la recherche d'une drogue magique. C'est une chose drôle, parce que quand je suis allé en Colombie, on m'en a parlé. Donc c'est quelqu'un qui a laissé une trace dans ce pays. On a dit, il y a eu cet écrivain américain qui est venu.
Ouais. Alors comment est-ce qu'il commence à se droguer? Donc on sait que en 41, il est mobilisé, il se fait réformer grâce à l'intervention de sa mère encore, hein, auprès d'un psychiatre de ses amis. Et puis on l'envoie quand même dans un centre d'évaluation psychique.
Je donne une petite précision, excusez-moi de vous interrompre, qui est importante, mais c'est un détail. Mais enfin, pour ne pas être enrôlé, c'est comme couper une phalange du petit doigt. Oui. Alors c'est pour ça, c'est toujours étrange de le voir, parce qu'il manquait un morceau de doigt, et c'était pour ne pas aller à l'armée qu'il avait fait ça, oui.
Et donc il va dans ce centre, précisément, sans doute parce qu'il s'est coupé un doigt, qu'on considère qu'il est fou, qu'il a besoin d'être psychiquement évalué, il passe 6 mois dans ce centre.
Oui, alors là, Boros n'a jamais été fou, hein. C'est vrai que il faut avoir le cran de se couper une phalange, hein, quand même. Mais en dehors de ça, c'est quelqu'un qui a été bizarre, parce que déjà aux prises avec les questions de drogue, et aussi déjà aux prises avec des questions qui en faisaient de lui un hors-la-loi. Il faut pas oublier que pendant ces périodes, il a commencé à voler dans le métro, à faire des ventes de la drogue, à faire des choses comme ça. Donc c'était quelqu'un qui s'était un peu mis au bord de la société. C'est une chose très importante. Et par la suite, il va s'intéresser, alors c'est quelques années plus tard, à la fameuse machine à orgone de Wilhelm Reich. Alors là, c'est une autre
Donc le psychanalyste allemand. C'est ça, ou autrichien, je ne sais pas.
D'origine allemande, mais qui s'est retrouvé aux États-Unis comme beaucoup de savants à cette époque, et il suivait donc les thèses de Reich, de la révolution sexuelle, etc. Et il voulait faire essayer à tous ses amis
de la libération, libérer l'orgasme.
Voilà,
c'était ça l'idée.
Absolument. Et lui, ça c'était une chose fondamentale. Il avait fabriqué lui-même une machine à orgone. On n'a jamais compris si ça fonctionnait vraiment ou ça fonctionnait pas, mais enfin, toutes les personnes qui l'ont connu, ils sont passés, l'ont vu, en tout cas, et ils étaient assez surpris, évidemment. C'est pas Ginsberg, c'est pas Kerouac qui allait faire ce genre de choses.
Ce mariage blanc, Gérard-Georges Lemaire, le retour aux États-Unis pour Burroughs, et à New York, il rencontre Joan Vollmer, qui est étudiante en journalisme à l'Université de Columbia, qui elle aussi consomme beaucoup, hein,
oui,
de benzédine notamment.
Une autre consommatrice, mais qui va jouer elle un rôle considérable, celle qui va. C'est pas elle qui est à l'origine de toutes les rencontres, mais en disant que son appartement va être lieu de rencontre, le sort de QG, de Kerouac, de Ginsberg, qui sont des jeunes étudiants de la Columbia University, et puis Gregory Corso, qui sortait de prison, qui a été pris sous l'aile de Ginsberg, et puis d'autres personnes. Alors là, on trouve des personnes bizarres, qui sont les camarades de travail de Boros. Ceux avec qui il va chaparder ou qui il va vendre la drogue, etc.
Comme Hunk, par exemple.
Hein?
Comme Herbert Hunk.
Eh bien, Hunk, oui, j'avais traduit d'ailleurs une partie de son livre, parce qu'il a raconté son histoire, et qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas tout à fait des lettrés. Là, on tombait dans les petits criminels, tout petits criminels, hein. Voilà, donc c'était un drôle de monde où se mélangeaient des gens qui poursuivaient des études supérieures et puis ces espèces de petits gangsters, mais tout petits gangsters comme ça, qui évoluaient et qui... Mais l'interférence des deux est extrêmement importante, c'est clair, parce que il est évident que pour Ginsberg, qui connaissait pas grand-chose du monde, c'était une ouverture. Kerouac, lui, qui a un peu plus, voyez encore, un peu plus vécu, puis il avait été dans la marine marchande, parce que pour échapper à la conscription, il avait été sur les navires commerciaux, mais ce qui a été d'ailleurs extrêmement dangereux, parce qu'il y a les sous-marins allemands, hein, donc beaucoup de marins sont morts dans ces circonstances-là. Bah, bref, il n'est pas allé du tout à l'armée. Enfin, tout ce petit monde se côtoyait et vivait ensemble.
Ils se côtoient et vivent ensemble, ils partagent tout, le sexe, l'héroïne, ouais, le haschich, la misère aussi. Et ils vivent de temps en temps dans un ranch qui a été acheté dans le Texas par William Burroughs et celle qui est donc devenue sa femme.
Ce ranch, d'ailleurs, avait une finalité bien particulière, parce que l'idée de Burroughs, c'était de faire pousser de la marijuana, ce qu'il a fait. Ouais, il s'est mis, parce qu'en gentleman farmer, il était parfait, on le voyait très bien, mais finalement, on ne pensait pas qu'il allait cultiver ce genre de choses. Et c'est dans ce fameux ranch qu'est survenu le drame épouvantable dont il me parlait, je me souviens qu'il en a parlé souvent. Tout le monde rit un peu de cette histoire comme si c'était une blague. Ce n'est pas une blague, tous les soirs, comme c'est un grand amateur d'arbres. Burroughs, ça a passionné jusqu'à la fin de sa vie, ça a passionné.
Comme son père d'ailleurs, qui adorait tirer à la carabine, son
voilà,
père.
Voilà, surtout la carabine, mais enfin n'importe quel revolver, pistolet, tout ça. Et tous les soirs, il jouait à Guillaume Tell, il mettait un verre sur la tête de sa femme. Et un soir, il l'a raté, et en présence de leur fils, le fils le raconte dans son histoire. Et là, il a été obligé de s'enfuir et a commencé sa longue errance à l'étranger.
C'est ça. Donc, après cet accident, qui ne lui vaut pas de prison, ou quasiment pas, ce qui est quand même assez incroyable aussi, c'est l'errance, c'est la fuite en avant, c'est le départ.
Oui, alors ça va être l'errance, mais l'errance qui va être quand même motivée, ce qui le sauvera sans doute, au moins pendant un moment, avec des objectifs. Alors, le premier objectif, c'était cette drogue sacrée des Indiens d'Amazonie. Alors, c'est là, pour ça, bon, il va d'abord au Mexique, après il va en Colombie.
Mais qu'est-ce qu'il espère trouver avec cette drogue-là?
Il l'a trouvé.
Mais qu'est-ce qu'il espère que ça va changer pour lui?
Ginsberg, dans son sillage, parce que Ginsberg aussi va partir en quête de cette drogue, qui était une drogue qui est extrêmement violente, comme toutes les drogues qu'utilisaient les Amérindiens, chose qui doit être terrifiante. Et en tout cas, il a fait cette expérience, il l'a écrite, et donc c'est sous la forme d'ailleurs de lettres échangées avec Ginsberg.
Les lettres du Yage, c'est comme ça qu'on prononce.
C'est ça.
Ouais. Et ces lettres du Yage, c'est quasiment des brouillons à ce qui va devenir son premier livre en 1953, Junkie.
Oui, alors c'était d'abord des lettres, je vous dis, une partie sont quand même des lettres. Mais ensuite, il voulait en faire un livre qu'il n'a pas fait. L'histoire de Burroughs, après, va très vite se tourner de nouveau vers l'Europe. Mais l'Europe, ça va pas fonctionner très bien. Et grâce à... certainement Paul Bowles, on n'est pas sûr, mais en tout cas, il va se retrouver en Afrique du Nord, et il va se retrouver en particulier à Tanger, qui était cité international à l'époque, donc il y avait beaucoup de liberté, et il va s'installer à Tanger, et c'est là qu'il va connaître vraiment le fond du fond, ouais. Il va connaître un peu le moment dramatique de l'héroïne, et ça va être l'écriture qui va le sauver.
Et là, à Tanger, vous dites qu'il y a une atmosphère de fin du monde. Pourtant, en même temps, il y a tous ces écrivains, il y a un milieu très cosmopolite, mais pour Burroughs, c'est Burroughs, la déchéance,
là,
c'est la maladie.
C'est devenu là, une vraie loque, il faut bien le dire. Il est seul, il a un petit ami arabe Mais bon, c'est un gamin. Hein. Mais enfin, le petit gamin, il fait un peu ce qu'il veut. Donc, il n'a pas une vie stable.
Donc, il lui vole de l'argent, par exemple.
Bon, entre autres, oui, un peu tout. Et donc, le pauvre Morose a vu des moments difficiles. Mais il se met en tête l'idée d'écrire cette expérience. Il avait déjà écrit un livre sur la drogue qui n'a pas été publié et un livre sur sa vie de petit truand. Alors ça a été publié, curieusement, c'est même, et ça avait été un petit best-seller, mais dans une collection populaire, hein, c'est pas comme écrivain qui a été connu. Et il a été publié en même temps qu'un témoignage d'un agent de la CIA. Voilà. Il y avait les deux textes dans le même bouquin.
Et c'est donc à Tanger qu'il commence à rédiger Le Festin Nu dont nous allons parler après la chronique d'Olivier Mauny. Olivier Mauny, avec qui nous sommes en duplex depuis Bordeaux. Bonjour Olivier.
Bonjour Mathieu.
Alors aujourd'hui, vous avez eu une idée pour célébrer l'arrivée de l'été.
De l'été et de son petit camarade, le soleil, Mathieu. Je me suis demandé en effet quel écrivain, quel livre aussi avait pu le mieux rendre compte de leur avènement. J'ai pensé d'abord, ça venait de soi, à la lassitude des grandes vacances, du bonjour tristesse de Sagan, à la tendresse des nuits d'été chez Fitzgerald, aux souvenirs de vacances arcachonnaises chez Chantal Thomas, à ce que Barthes, en son refuge basque, écrivait de la vacance insexuelle, je cite. J'y ai pensé et je les ai oubliés, parce qu'un livre, un homme, les a bientôt supplantés tous dans mon souvenir de lecteur et que ces quelques lignes me sont revenues en mémoire. Ô jour, est-ce le temps écoulé, le regret de la jeunesse perdue, qui me peigne ces 3 mois sous de si vives couleurs? Sans doute chaque être garde-t-il ainsi dans son cœur le souvenir de vacances sans nuages, de ciels inaltérables. Fin de citation. Ce livre, publié dans la merveilleuse et hélas défunte collection Le Promeneur, chez Gallimard, c'est L'Âge d'or, son auteur Pierre Herbart.
Alors vous pouvez nous rappeler qui était Pierre Herbart, Olivier?
Un sacré numéro, Mathieu, assurément. Il faut lire la très belle biographie que lui a consacrée voici quelques années Jean-Luc Moreau chez Grasset, intitulée Pierre Herbart, l'orgueil du dépouillement. Pierre Herbart naît sur le port du Havre et c'est un garçon issu de la meilleure bourgeoisie. Pourtant, son père finira ses jours comme clochard suite à un chagrin d'amour. Le déclassement, d'ailleurs, sera le motif constant de toute l'œuvre d'Herbart. Pierre, voleur par essence, aime les garçons et la drogue, tout en acceptant la protection amoureuse de personnes du sexe opposé. Voyageur impénitent, dénonciateur sans trêve, en tout temps et sous toute latitude, de Saïgon à l'Afrique de l'horreur coloniale, athée résolu et anticlérical, amateur de bouges, de tripots, il va adhérer avec enthousiasme au Parti communiste avant d'en devenir parmi les premiers et les plus sévères contempteurs. Plus tard, il y aura l'Espagne avec les Républicains, et chez cet homme courageux et lucide, la Résistance, à propos de laquelle il prétendra volontiers n'avoir fait ce choix que pour s'y procurer plus facilement la cocaïne et la morphine dont il n'entendait pas se passer. Il fondera une famille aussi, mais recomposée avant la lettre. Il épousera une femme qui était la mère de l'enfant d'André Gide, qui fut, après Cocteau, son deuxième mentor, et certainement le plus important. Il finira ses jours, lui aussi, dans la misère, clochard céleste comme son père, soutenu de loin en loin par Malraux, par Henri Thomas, et même par le jeune animateur des éditions du Sagittaire, Gérard Guégan, qui se souvient de lui comme, je cite, « d'un vieillard magnifique et de mauvaise humeur, et d'un écrivain d'une grande luminosité, d'une facilité inouïe, et dont l'écriture a la force de l'évidence. » Car Herbart, ce sont surtout ses livres les plus beaux, les plus édéniques qui soient. Citons-les, Alcyon, Le Rôdeur, La Ligne de Force, traversés à la fois de figures d'enfants perdus et des convulsions du siècle, empruntant à la littérature du grand siècle et en même temps d'une fulgurante modernité. Il faut, pour en goûter le sel et la lumière, savoir qu'il n'est de paradis qui ne soit de toute éternité perdu, et avoir dans le même temps le goût du bonheur et l'usage des plaisirs, donc. En somme, si j'osais, mais cette circonstance, je vous dirais qu'Herbart est aussi le grand frère en liberté des Kerouac ou Cassady, qui sans doute auraient bien aimé le connaître.
C'est vrai qu'on pense effectivement à eux en écoutant votre description, mais qu'y a-t-il de si édénique dans son œuvre, alors que sa vie et ses livres témoignent aussi d'une certaine noirceur, Olivier?
C'est vrai, mais ce n'est pas contradictoire, paradoxalement. Et Herbart, à mon sens, est d'abord un antidote à l'époque. À l'heure du massacre d'Orlando, à l'heure à celle de la terreur de l'amour du vivant, le banc et l'arrière-banc de la réaction jouent à « genre fais-moi peur », la lecture d'Herbart est aussi d'un point de vue politique de salubrité publique. Et puis, vous savez, il y a ce fameux poème de Rimbaud sur l'éternité retrouvée. La mer allait avec le soleil, ce poème que cite Godard à la fin du Mépris. C'est ça, Herbart, c'est ça l'âge d'or. La Méditerranée, la Corse, Cabris, ce village perché au-dessus de Grasse, et cet enfant, Marius, mort à l'heure de la sieste, qui fut son lancinant regret et son grand amour, et lui inspira ses plus belles pages. Alors Mathieu, laissons en conclusion dormir, Herbart, ses rêves sont magnifiques. Et sa liberté est celle des enfants dissipés, comme se dissipent parfois les nuages.
Gérard-Georges Lemaire, est-ce que cette description de la vie d'Herbart vous fait penser à Burroughs ou à d'autres camarades de la Beat Generation?
Ça fait penser à ce type de personnage, plutôt une catégorie de personnage qui pourrait être la figure du rebelle, de l'insoumis, de la personne en errance et aussi de la personne qui est prête à faire des expériences transgressives.
En tout cas, écoutez, merci beaucoup Olivier, je ne vous ai pas dit au revoir. On se retrouve mardi prochain, c'est ça? Pour une dernière
coupure.
Merci
Mathieu, à mardi.
Avant l'été, à mardi prochain. C'est France Culture que vous écoutez, la compagnie des auteurs. Nous parlons aujourd'hui de William Burroughs avec le grand connaisseur de la Beat Generation qu'est Gérard-Georges Lemaire.
Well, a great deal of my material simply comes from dreams. I get whole chapters, whole short stories, just taking a dream and writing it out on paper.
Eh bien, une grande part de mon matériau sort de mes rêves, des chapitres entiers. Les nouvelles sont tirées des rêves que j'ai consignés par écrit. J'utilise donc l'onirisme de façon très directe.
I am much less acquainted, well acquainted with the work of Jung than I am with the work of Freud. I consider
Jung. Je connais moins bien le travail de Jung que celui de Freud. Je considère que Jung est un penseur boueux. Et si je devais aller dans le sens du mysticisme, j'irais plutôt voir les sorciers.
When you get to such randomizing techniques as cut-ups, and it would seem to be random, but it probably isn't random at all. You probably know on some level exactly how the cut-up will turn out.
Et quand on utilise une technique aussi aventureuse que le cut-up, elle paraît abandonnée au hasard, mais en fait, elle ne l'est pas du tout. On sait jusqu'à un certain point comment le cut-up va fonctionner.
William Burroughs qui parlait en archive de sa technique d'écriture très inspirée par les rêves, Gérard-Georges Lemaire. Et c'est vrai qu'on peut dire que la prose de Burroughs, elle est quel mot employé ? Hallucinée ?
On peut dire ça en partie, mais pas seulement. Ce qui est très difficile à faire comprendre, et surtout à l'époque on avait publié ses ouvrages, c'est parti la trilogie avec le ticket qui explose, etc. C'est à la fois une littérature expérimentale qui effectivement peut rappeler pas mal le fonctionnement onirique, ça c'est sûr, et en même temps une littérature extrêmement élaborée. C'est un homme qui n'arrêtait pas, ou quasiment pas, d'écrire. C'était même le problème qui s'est posé à un moment avec le festin nu. Il a fallu que ses amis arrivent à Tanger pour essayer de mettre un vague ordre dans les manuscrits qu'il avait empilés, parce qu'il n'arrêtait pas de produire des textes. Mais par contre, ce qu'il ne savait pas faire, c'est construire le livre à l'époque.
Oui, donc il a été construit finalement par ses amis, ce livre-là, alors. Il a été construit par les autres?
Il a été, on travaillait sur ce livre, Ginsberg, Kerouac, Orlovsky, pour la première partie. Ensuite, le premier manuscrit avait été proposé à Maurice Chérondien, c'est l'éditeur de l'Olympia Press qui se trouve à Paris. Il a refusé, mais il était intéressé parce qu'il y avait quand même des essais qui avaient là un écrivain quand même pas différent. Mais le truc était encore un peu chaotique. Et là, de nouveau, c'est Brancacci, d'autres encore, enfin, tout le monde s'y est mis, jusqu'au point d'arriver au livre que vous avez pu lire chez Gallimard, parce qu'il a paru en français chez Gallimard un an, peu de temps après l'apparition en anglais chez Olympia Press, et qui est un livre révolutionnaire, quoi. En fait, Burroughs, presse américain, c'est Laure Céline.
Et un livre écrit sous la dictée, dit Burroughs.
En partie, je pense que, vous savez, j'ai jamais vu écrire. Moi, c'est une chose qu'il ne faisait pas en public. Il était extra. En plus, c'est quelqu'un qui parlait peu d'écriture. Vous remarquerez sans doute que les entretiens sur la littérature et l'écriture de Burroughs sont extrêmement rares. Je les ai tous chez moi. Il y a un volume qui est sorti aux États-Unis. Alors moi, j'en ai fait deux, que j'avais publié dans le Cahier de Tanger. Il y en a quelques autres, mais très peu. Il pouvait parler de tout, parce que tout l'intéressait, la vie l'intéressait, le monde l'intéressait. Mais moi, pour vous dire la vérité, les grandes conversations que j'ai eues avec Burroughs, j'en ai eu que deux. Je parle des grandes, sérieuses et longues. Hein. C'était la valeur comparée des métropolitains dans le monde et la manière de faire les sandwichs dans différents continents. Et je ne plaisante pas, c'est la vérité, mais jamais on ne parlait de littérature, sauf devant un micro. Alors quand je l'interviewais, il parlait, et ça a été, je peux vous dire, extrêmement laborieux.
On va écouter un petit peu ce que ça donne que ce festin nu dans une lecture ici d'Alain Cuny.
Évite la station de Queens Plaza, fiston. C'est le métro des pédales à menottes. Quais et couloirs maléfiques, hantés par mille poulets aux trousses des trousseurs de camé. Trop d'étages, trop de niveaux. La flicaille surgit foudroyante du placard à balai, puant l'ammoniac, envapé. Tigre carboniseur. Tout ça pour épingler une pauvre vieille gauleuse qui arnaque les soulards. Et elle, les veines pétrifiées de terreur jusqu'à l'os, pauvre mémé. Il lui faut sa soignette une fois la semaine. Ou bien c'est le 529 garanti rubis sur l'ongle, par la maison Fliquette, au Camé, qui font les poches des embrumés de la picole. 5 mois et 29 jours, c'est le tarif à New York, pour les travailleurs de la bouscule, ceux qui heurtent les titubeurs à la fosse distraite, pour un motif évident. On a vu des innocents pour sang se faire emplafonner pour meurtre. Mais il n'y a jamais mal d'homme pour la bouscule.
Qu'est-ce qui en fait un livre inouï, Gérard-Georges Lemaire ? Qu'est-ce qui en fait un livre tout neuf ?
Ce qui en fait un livre inouï, c'est d'abord cette faculté que personne n'avait eue avant lui de faire un livre qui parle de la dépendance à la drogue de cette façon. Il n'est pas le premier, il y en a eu beaucoup. Je pense à des auteurs, il y en a eu beaucoup.
Mais de cette façon, ça veut dire quoi ?
Ça voulait dire parler de l'intérieur, c'est pas d'écrire des effets, des rêves. Maurice Mack me vient à l'esprit, un auteur un peu oublié, qui lui aussi avait pris de l'opium, il avait raconté ça. Je crois qu'il est le seul qui avait été un peu capable de parler de la drogue avec une certaine force, c'était curieusement Jean Cocteau, dans Opium. Opium, ça, c'est un livre assez extraordinaire. Et curieux, étant donné le personnage qui était Cocteau. Mais en ce qui concerne le festin nu, là, on a quelque chose, une force absolument incroyable. C'est un livre où on voit d'abord le narrateur se perdre complètement, se dissoudre littéralement à cause des effets des produits intoxicants, mais aussi on voit un monde apparaître, un autre monde, comme si on voyait le revers de notre monde à travers ses yeux, et c'est très impressionnant, parce que c'est un monde cauchemardesque, sans doute, c'est un monde halluciné, comme vous le disiez, bien sûr, mais c'est aussi révélateur d'une réalité. Par exemple, le monde de l'Afrique du Nord de l'époque, au fond, personne ne décrivait comme ça, mais c'était pourtant la triste réalité. Donc, il y avait quelque chose chez lui qui touchait aux racines des plus profonds. C'est pour ça que je faisais la comparaison avec Céline. C'est pas, il écrit pas comme Céline, ou mais il y a des analogies curieuses. Comme Céline aimait beaucoup la fragmentation des phrases, Moreau aussi fragmentait beaucoup. Il l'a fait encore plus après. Donc, il a une volonté de nous faire tout
ouvrir les yeux un petit peu
la main, ces choses. Qu'on les sente, qu'on les pèse, pas seulement qu'on les lise. C'est quelque chose qu'on retrouve, alors il n'est pas le premier à le faire, il y avait ça, par exemple, chez Jean Dos Passos, dont vous parliez tout à l'heure. Dos Passos, c'est certainement été un de ses modèles, puisque Dos Passos adorait faire entendre à ses lecteurs les bruits de la ville. Voilà, ça c'était des choses qui rendaient les fictions de Dos Passos novatives en leur temps.
Le métro notamment. Voilà, qui aimait parler des métros avec Burroughs.
Et chez Burroughs, eh ben, ça commence par le métro, comme Céline d'ailleurs. C'est ça qui est amusant. On part en métro chez Céline, dans le Voyage de la nuit, et on part en métro, également à New York, avec Burroughs. Et on se retrouve à Tanger.
Et ce livre, il vous fait penser à des peintures, puisque vous vous intéressez beaucoup à la peinture.
Oui.
Et en particulier à Jérôme Bosch.
Il en parle.
D'enfer de Jérôme Bosch.
Tout à fait. Et il en parle. Il y a tout un chapitre, d'un des trois, alors je sais plus lequel des trois de la trilogie, si c'est la machine molle ou le ticket qui explose, pas peu importe. Il y a un des trois volumes, il y a tout un passage sur Bosch, où il parle de God, Dieu en anglais, et God c'est Garden of Devil, donc c'est tout à fait autre chose, enfin, il le traduit comme ça, et il nous donne une description de Bosch qu'il connaissait donc fort bien, et auquel il, visiblement, il semblait s'assimiler.
Et puis c'est un roman qui est pensé comme une saison en enfer, et qui renvoie aux illuminations de Rimbaud.
Tout à fait. Alors, bien sûr, on peut aussi prendre... Rimbaud a été un des grands modèles de la Beat Generation, d'ailleurs pour des raisons souvent très différentes. Parce que ce qui est amusant, c'est de voir tous ces auteurs qui avaient les mêmes lectures et qui traduisaient ça d'une manière assez différente. Alors, il y a parfois des rapprochements, des connivences, mais enfin quand même. Mais Rimbaud, bien sûr, je rajouterai la forme et je rajouterai aussi l'autre Rimbaud.
Mais qu'est-ce qu'il y a de Rimbaldien?
Et même Hugo.
Alors qu'est-ce qu'il y a de Rimbaldien d'abord?
Qu'est-ce qu'il y a de Rimbaldien? C'est un peu l'idée.
Parce que c'est un poète, alors que Burroughs était d'abord un romancier, avant d'être un poète.
Oui, peu importe, mais il y a un univers. Alors l'univers du bateau-rive, c'est quoi le bateau-rive? C'est un tout jeune homme, à l'école encore, qui imagine un voyage, voilà, qui se passerait dans un pays inconnu, et qui nous décrit ça, comme a pu le faire aussi notre Rimbaud, qui lui aussi décrit, ouais, et comme l'avait fait Hugo avant eux. Faut pas oublier, c'est aussi des textes absolument extraordinaires de Hugo. Donc il y a toute une tradition littéraire qui passe là.
Il y a une tradition littéraire et puis il y a aussi une technique qui, elle, est nouvelle.
Couper à travers les pages de n'importe quel livre ou journal, dans le sens de la longueur, par exemple, et mélanger les colonnes de texte. Remettez-les ensemble au hasard et lisez le message nouvellement constitué.
Et cette technique, Gérard-Georges Lemaire, c'est évidemment le cut-up inventé par Brian Gysin, qu'on entend dans l'archive, et approprié. par Burroughs. Alors, pas dans le festin nu, justement, mais après.
Alors, l'histoire est célèbre et connue. Ils se sont pas connus vraiment à Tanger. Parce que Brant Gastein était à Tanger au même moment que Burroughs. Il y avait un restaurant qui s'appelait Mille et Une Nuits. Mais lui, il vivait dans le monde arabe, alors que Burroughs, lui, vivait dans le monde espagnol, parce qu'il parlait l'espagnol. Donc, ils avaient deux univers. Ils sont rencontrés une seule fois, ils ne sont pas plus. Et c'est à Paris qu'ils sont vraiment connus. Et là, Brant Gastein lui a expliqué ses trouvailles sur le plan de la création poétique, parce que il avait écrit un roman que j'ai publié, d'ailleurs, qui s'appelle « Désert dévorant ». Mais il était surtout poète et écrivait aussi des chants. Et donc il avait trouvé une formule assez simple qui consistait à découper une page de journal en deux et de mettre une page de journal contre une successive qui n'avait rien à voir, et ça donnait un texte étrange. Où il avait d'autres techniques comme folding, c'est le même principe par le pliage, et il avait les permutations qui étaient simplement d'utiliser quelques mots, une phrase très courte, et de permuter tous les mots qu'il a composés. Ça donnait effectivement une chanson parfois assez belle, d'ailleurs assez frappante. Et Burroughs voit ça, et ça ressemblait beaucoup, alors je parle surtout du Catap, même s'il va utiliser aussi les autres, beaucoup à ce qu'il avait fait avec le Festin nu. Il y avait une familiarité, et au fond, Brant Gastein lui apportait la technique pour réaliser ça d'une manière presque automatique.
Et d'ailleurs, ils publient ensemble The Third Mind en 1976.
Oui, alors The Third Mind, qui a été une grande aventure, qui a été la somme de toutes leurs expériences communes. Mais comme vous avez peut-être pu le voir dans l'édition que j'avais faite de ce livre, qui d'ailleurs, contrairement à la légende, est très très proche de l'édition qui a été prévue aux États-Unis, qui n'a pas été imprimée, chacun, quand même, avait son champ carré, il avait son territoire, avait sa manière de mener ses expériences. Et d'ailleurs, d'autres écrivains du Mythotel vont participer à ces expériences du Catap.
Donc le Catap, est-ce que ça restera la technique de Burroughs jusqu'à la fin de sa vie? Il disparaît en 1997, il sera retourné aux États-Unis. Ou alors, est-ce que pour sa trilogie, pour The Wild Boys, qui est aussi un de ses derniers livres, il va revenir à une autre forme de narration?
Non, alors, il va utiliser le Catap pour la fameuse trilogie, ça c'est clair, qui va être d'ailleurs, qui va correspondre à des périodes les plus difficiles de sa vie, à cause du fait que ses livres sont publiés, certes, mais ne se vendent pas, les gens les trouvent illisibles. Nous, quoi, avec Bourgois, quand ça a été publié, ça a été une catastrophe
absolue. Donc il ne profite pas de l'aura, quand même, de la Beat Generation.
Pas du tout. Mais d'abord, la Beat Generation, en France, n'a pas d'aura. Il y a quelques personnes comme moi, ou comme vous peut-être, qui se passionnent pour ça, ou même pas vous. Bon, donc voilà, donc il y a des passionnés, il y a des gens qui adorent cette littérature, ou qui adorent Kerouac, ou qui adorent Ginsberg, ou qui adorent Burroughs. D'accord. Mais ça s'imite là. Hein, il y a vraiment ce barrage-là. Il n'y a pas eu, dans le monde littéraire, plus que ça. Alors,
et pourtant, c'est quand même à Paris que ça a été publié, tous ces livres que les éditeurs américains ne voulaient pas prendre. C'est à Paris qu'ils ont été publiés.
Alors, Burroughs, d'ailleurs, va revenir aux États-Unis quelques années, parce que le séjour à Londres, comme je disais, a été catastrophique avec la publication de la trilogie. Et il va revenir aux États-Unis, il va abandonner le Catap comme système premier. Il va toujours le conserver, hein, jusqu'à la fin, mais plus de manière systématique.
En quelques secondes, les dernières années de Burroughs, à quoi ça ressemble,
Gérard? Les dernières années de Burroughs, il va les passer une partie à New York, dans le fameux bunker, et une partie à Lawrence, au Texas, où il avait une petite maison où il vivait avec son secrétaire. Eh bien, il va continuer à écrire. Il va écrire même de sorte de mémoire. Il va même écrire sur les chats. Donc, je me rappelle, j'ai traduit un petit livre sur les chats, c'est assez bizarre à part de moi. Enfin, il a fait ça parce qu'il adorait les chats. Il avait ses amours, les chats, les armes à feu, les garçons. Voilà, on peut dire que c'est ça, en gros, mais la littérature avant tout.
Et ça lui suffisait. Merci Gérard-Georges Lemaire.
Holy, holy, holy.
15h54 sur France Culture, c'est comme chaque jour le moment de retrouver notre séquence de lecture de poésie. Toute la semaine, en écho bien entendu à l'Euro de football qui se tient en ce moment en France, c'est bien Jacques Bonafé vous propose des dribbles poétiques.
Bonjour, chant furieux. Le chant furieux est-il celui des supporters, celui qui agite le champion dans sa course ou celui d'un destin ou alors celui du poète photographe qui court derrière ce destin? Depuis la victoire à Saint-Denis, Zidane est le personnage préféré des Français. Son nom partout dans le monde est synonyme du mot France. De la Chine jusqu'à l'Australie. L'Ingouche questionné sur le chemin du marché, l'Éthiopien sorti de crypte et le Chilien de mine, il n'est pas un garçon d'extrême pays. Il n'est pas une femme de la brune des favelas à la huppée de Manhattan qui n'enterrine la France par Zinedine et les Champs-Élysées. L'enfant sacré à Saint-Denis, mené en bus de Concorde à l'étoile, ses initiales levées sur le fronton de France. Torse archaïque d'Apollon, poème de Rainer Maria Rilke. Nous n'avons pas connu sa tête prodigieuse où les pupilles mûrissaient, mais son torse, encore lui, ainsi qu'un candélabre dans lequel son regard, vrillé vers l'intérieur, se fixe et étincelle. Sinon, tu ne serais ébloui par la poupe du sein et la légère volte des reins ne serait parcourue du sourire qui s'en va vers ce centre où s'érigea le sexe. Et la pierre, sinon, écourtée, déformée, serait soumise sous le linteau diaphane des épaules et ne scintillerait comme fourrure fauve, ni ne déborderait toutes ses limites comme une étoile, car il n'y ait point de point qui ne te voit. Tu dois changer ta vie. Ce poème symbolique de Rainer Maria Rilke est pris en exergue du livre de Sloterdijk « Tu dois changer ta vie ». À ce seul nom de Zidane, plus que copie, mieux que César et Mallarmé, c'est un fait hallucinant que les gens s'immobilisent et deviennent liquides aux yeux, saisis d'endémique curiosité et m'écoutent tout ouïe comme si je grandiloquais supérieurement à Cuny sa diction catafalque. Écrit Philippe Bordas dans Chant furieux. À propos du football, peu de poèmes footballistiques ou trop peu de temps ici pour dérouler les odes d'Arthur Jorge le portugais, celle de Drummond de Andrade le brésilien sur le roi Pelé, mais quelques mots de Ronsard à la Soule. Le roi ne faisait partie où Ronsard ne fut toujours appelé de son côté. Faire d'un pied léger et broyer les sablons et bondir par les prés et l'enflure des ballons. Or un ballon poussé vers une verte place sont des extraits des amours de Marie. Il nous reste à citer Pindare. Il était autrefois, dans l'Antiquité, plus précieux qu'une médaille ou qu'une coupe. Il était indispensable d'avoir une citation du poète, celui-ci s'appelait Pindare. Une noble hardiesse délie ma langue, mon génie me fait sentir sa puissance irrésistible et m'inspire des chants sublimes en l'honneur de Corinthe, éloge à Xénophon de Corinthe, vainqueur à la course et au pentathlon. C'est de la nature que nous vient tout ce qui est parfait, cependant combien de mortels s'efforcent d'acquérir de la gloire par des vertus empruntées à l'art et aux préceptes.
Profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare.
Jacques Bonafé et ses dribbles poétiques dans la compagnie des auteurs au deuxième jour d'une série d'émissions consacrée à la Beat Generation. Aujourd'hui, nous étions avec Gérard-Georges Lemaire pour parler de William Burroughs. Impossible de citer tous ses ouvrages en lien avec la Beat Generation, tellement il y en a. Signalons tout de même la réédition en folio du Festin Nu, agrémentée d'une préface de sa main. Et puis, à noter par ailleurs que la galerie Sémiose, rue Chapon, dans le 3e arrondissement, présente une exposition d'œuvres plastiques de William Burroughs. C'est jusqu'au 23 juillet. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast et nous retrouver sur les réseaux sociaux. En attendant demain et la suite de nos portraits de ces marginaux capitaux que sont les membres de la Beat Generation. En l'occurrence, nous serons en compagnie de Gilles Farcé pour évoquer Allen Ginsberg. Cette émission était réalisée par Vincent Abouchard. À la console, il y avait Myriam Guillot. Merci à Pascaline Bonnet, Didier Pinault et Anne-Vanessa Prévost, sans qui cette émission ne pourrait avoir lieu.